Les marchandes de sable, mouche s'en va en guerre, de Erika Serton. Chapitre 6. Mouche dans la prison sans barreaux. Quand la porte fut refermée sur Mouche, la fillette, les poings toujours crispés, se laissa tomber sur la chaise. Elle avait dit la vérité et on l'avait enfermée. Mais était-elle bien dans une prison ? Ce n'était pas ainsi qu'elle l'eût imaginé. Il n'y avait ni le pain, ni la cruche d'eau, ni la traditionnelle petite souris dans un coin. Sur le mur s'ouvrait, un peu haut, une fenêtre pas très grande, mais qui n'était pas munie de barreaux de fer. Et derrière Mouche, contre le mur, étaient superposées des étagères chargées de cahiers et de registres. Sur la planche la plus élevée, on voyait deux vieux képis de gendarmes que la poussière paraissait affectionner. Dans un angle, entre les montants du rayonnage et le mur, étaient enfoncés deux balais. « Par exemple, se dit-elle, ils m'ont mise dans leur arrière-boutique !» Puis, comme sa situation n'était guère enviable, elle appuya son menton sur ses deux mains pour réfléchir. Le bol était donc une coupe d'or. Beaucoup d'objets avaient également disparu du musée dont le maire se montrait si fier. Mais alors, ils avaient raison de la suspecter, de l'accabler d'une foule de questions. Tout de même, pour continuer à la soupçonner, elle, Mouche, malgré ses protestations, il ne fallait pas qu'il soit bien malin. Ce qui demeurait certain, c'est que le voleur avait remis le bol au pauvre Zinzin pour le rendre suspect, en lui racontant n'importe quelle histoire que le malheureux démon avait répétée, peut-être en la dénaturant totalement. Le coupable était ainsi à l'abri. Mais pour qu'il ait songé à mettre Zinzin en avant, il fallait qu'il fût un habitant du village. « Qui sait, songeait-elle encore, si ce coupable n'est pas le grand brinque ou aussi ce bigot qui avait l'air de mépriser les autres ?» Seulement, si le voleur n'était pas l'un d'eux, tout cela était du temps perdu qu'il pouvait mettre à profit pour s'enfuir. Mouche en était là de ses réflexions quand la clé tourna dans la serrure. La porte s'ouvrit pour laisser apparaître le visage bouleversé de Marie Cortisol. Elle avait les yeux gonflés comme si elle avait beaucoup pleuré et posant à terre un panier qu'elle portait, elle tendit les bras vers la fillette en sanglotant de plus belle. « Petite Mouche !» lui dit-elle, « qu'avons-nous fait au bon Dieu pour qu'après que nous t'ayons reçu si gentiment, tu nous aies porté malheur ?» La fillette s'attendait à tout, mais pas à ce préambule. Elle répondit poliment, mais d'un ton un peu sec. « Chère madame, je crois bien que je n'ai encore porté malheur à personne et que les gens qui s'acharnent sur moi ne savent pas bien se débrouiller. » « Ce n'est pas leur faute s'ils n'ont pas trouvé la cachette dans laquelle tu as placé toutes les pièces disparues. Vous n'allez pourtant pas croire que j'ai volé !» Je souhaite vivement ne pas le croire, mais à ma place, qu'aurais-tu pensé ? Les circonstances t'accablent, et nous aussi, du même coup. Tout aurait pu être évité si tu avais eu le cœur de dire où tu avais mis le reste du trésor. Au contraire, tous t'auraient remercié de les avoir mis sur la voie. Il faut absolument que les objets enlevés soient revenus à la mairie, avant dimanche, où cela créera des ennuis terribles à mon mari. Nous n'avons aucune fortune, nous, tu le sais bien. Qu'est-ce qu'ils font alors, Monsieur Cortisol et les autres, pour retrouver les choses qui manquent ? Ils sont partis en enquête, mais tu leur aurais tellement facilité la besogne en leur disant où tu les as mises. Je ne les ai mises nulle part, j'ai dit la vérité. C'est épouvantable, Mouche, tu agis comme si tu nous voulais du mal. Réfléchis bien encore, je t'ai apporté ton déjeuner dans ce panier, sans oublier le dessert ni le gâteau que tu aimes tant. Fais à ton tour quelque chose pour nous, et quand mon mari va revenir, dis-lui où sont les choses volées, je t'en prie. Ne pleurez pas, Madame Cortisol, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Si j'étais votre mari, je saurais bien chercher le voleur d'une autre façon qu'en m'acharnant contre une petite fille qui est tout seule pour se défendre et n'a commis rien de répréhensible. Oui, comment ferais-tu ? Je ne sais pas encore bien, mais je suis sûre que je trouverai vite. Puis, sans se rendre vraiment compte de la portée de ce qu'elle allait dire, elle ajouta crânement. Si c'était moi qui cherchais le voleur, je vous garantis qu'il serait arrêté dans les 48 heures. Mon Dieu, que me dis-tu là ? La vérité, madame, cela n'existait pas, ces paroles où les gens avaient l'air de s'entendre pour m'accabler, pour faire semblant. Là-dessus aussi, j'ai mon idée. On a prêché le faux pour me faire parler. Je ne pouvais rien dire de plus. Seulement, moi, je me doute qu'un tas de choses qui se passent dans le village comme dans la forêt. J'en ai vu que je n'ai pas dites. Je te crois, tu n'as absolument rien dit du tout. Ce serait bien, pourtant bien le moment de nous rendre ce service. Eh bien, tenez, chère madame, je vous dis ceci. Moi, mouche, qu'on me laisse chercher le voleur à ma guise sans que personne de la gendarmerie ou du village intervienne avant que je ne le demande, et je vous assure qu'avant 2 jours, votre voleur sera découvert. Tu es sérieuse ? On le serait à moi, je vous le garantis. Regardez dans quel cagibi on m'a enfermée. Je puis donc aller répéter à mon mari ce que tu viens de me dire. Oui, et tout de suite encore. Ajoutez que puisque les gendarmes ne peuvent plus trouver les bandits, je leur livrerai celui-ci, comme je vous l'affirme en ce moment. C'est bien, j'y cours. Mouche était contente d'avoir repris le dessus, aux yeux de la sœur d'Albert. Mais elle ne savait pas encore comment elle s'y prendrait pour attraper un voleur sur lequel elle n'avait guère d'indice très net. Bah, qu'on la laisse faire et elle verrait bien. Elle avait déjà réussi au Havre quelque chose de très difficile. Pourquoi sa chance ne la servirait-elle pas une fois de plus ? 5 minutes plus tard, Marcelle Cortisol était de retour. Son visage était rouge comme si elle venait d'avoir une vive discussion. Il est vrai qu'un brigadier de gendarmerie ne pouvait accepter avec enthousiasme la proposition de la fillette. « C'est entendu, » dit-elle. « Mon mari accepte. » « Il a fini par bien vouloir me laisser partir ?»« Tu as ta liberté totale. » Jusqu'à samedi soir, à condition que d'ici là, tu aies indiqué le voleur. Donc, je suis tout à fait libre. Dès maintenant, mon mari va venir te le confirmer aussitôt qu'il aura donné un coup de téléphone. Il s'en ira ensuite sur une piste très importante. En attendant, tu ferais bien de prendre le déjeuner que je t'ai apporté. Tiens, je l'installe sur la table. Ce sont de bonnes choses. Que l'appétit ne te manque pas. Tu vas avoir besoin de force pour faire prendre le voleur. Ajouta-t-elle avec une petite nuance d'ironie qui n'échappa pas à notre fine mouche. Madame Marie Cortisol partit en refermant la porte. « Voilà bien les gens d'ici, » constata Mouche. « Elle vient de me dire que je suis tout à fait libre, mais referme prudemment la porte à clé. » L'a-t-elle fait machinalement ? La femme d'un gendarme, ça ne réagit pas forcément comme tout le monde. « Oh, mais il ne faut pas laisser refroidir son déjeuner. » D'autant plus qu'elle m'a gâtée. Au fond, elle est gentille, Madame Cortisol. Mouche mangea de bon appétit comme si rien n'avait troublé sa matinée. D'ailleurs, ce repas dans une petite pièce, devant des archives surmontées de 2 képis de gendarmes, c'était encore une aventure amusante. Elle allait s'attaquer à la grosse part de gâteau quand elle entendit à l'extérieur les aboiements reconnaissables de son caniche. « Tiens !» s'écria-t-elle. « C'est Quick ! Il m'a trouvé !» Les jappements venaient de l'arrière de la maison, de l'autre côté du mur. Mouche sauta sur la chaise, mais ne put atteindre la hauteur du bord de la fenêtre. Elle entr'ouvrit le battant en levant les bras pour passer la main qu'elle agita. « Bonjour mon Quick » cria-t-elle. Le chien fit entendre un nouvel aboiement, puis se tut. Une voix venait de lui imposer silence. « Tais-toi, sapristi, tu vas nous faire repérer !» « C'est Polo !» fit-elle joyeuse. Sautant de sa chaise à terre, elle alla prendre un balai dans le coin et le fit passer par l'ouverture de la fenêtre en le secouant avec frénésie. « C'est toi, Mouche ?» fit une voix bien connue. « Oui, Polo. Tu es seule ?»« Pour le moment. Bon, attends. » Elle entendit les chuchotements, puis un frottement contre le mur et la tête de son petit camarade parut à la fenêtre. « Ça va, Christophe, pousse-moi encore !» dit-il. Cette fois, tout son buste se montra. Il prit appui sur le rebord et, cédant des mains, fit passer tout son corps. 2 secondes après, il était à côté de Mouche dans la petite pièce. « Tu es gentil d'être venu, » lui dit-elle. « Comment savais-tu que j'étais ici ?»« C'est un copain qui a fait une course au village et il a entendu dire qu'on t'avait arrêté comme voleuse et mise en prison. » Alors Christophe a dit « Ça, c'est des boniments, il faut aller voir ce qu'il en est. » Pour le coup, on a rappliqué. Il y a des tas de gens devant la gendarmerie et ça pérore à se dessécher la langue. Alors nous avons pensé à faire le tour et personne ne nous a remarqué. Comme j'avais trouvé Quick à l'entrée du village, nous l'avons amené avec nous. C'est lui qui a affleuré où tu étais et il a gratté le dessous de cette fenêtre comme s'il voulait grimper au mur. Alors nous avons compris que tu étais là. Tu vois le reste. Seulement, ils t'ont mis sous clé ? Plus maintenant, c'est une longue histoire que je vais te raconter, mais pas ici. Je suis à présent tout à fait libre. On ne dirait pas, fit le gamin, en lorgnant d'un œil torve les 3 cagibis et la serrure dont le peigne était repoussé dans la gâche. En ce cas, il n'est pas encore de retour. Il ne dirait pas. C'est comme ça quand même. Madame Cortisol vient de me dire que j'étais libre et que son mari allait venir pour me faire sortir. Et c'est elle qui a apporté ce gâteau ? Dit-il en lançant vers la table un long regard intéressé. Tu peux en prendre si le cœur t'en dit. Je te crois qu'il m'en dit, s'extasia le gamin en se servant une bonne moitié du dessert. Bah quoi, on n'invite plus les amis ? Fit une voix narquoise. C'était Christophe, qui apparaissait à la fenêtre à son tour. Viens chercher, dit alors Polo. Sans blague ? S'écria le grand garçon. Ça va, j'arrive. Il franchit lestement l'appui de la fenêtre et se laissant pendre par les mains, se retrouva presque sans bruit sur le plancher. Comment as-tu fait pour grimper tout seul ? Lui demanda Polo. J'ai aperçu une petite échelle contre la remise de la maison d'à côté. Je l'ai appliquée sur le mur et voilà. Wick, furieux de se voir délaissé, se mit à aboyer à pleine voix. Oh, il va nous faire arriver des histoires, dit Mouche. Il n'y a qu'à l'amener ici, fit alors Polo. Plus on est de fous, plus on rit. Chiche, s'écria Christophe, amusé. Cédant de la chaise, il agrippa le rebord de la fenêtre, s'y jucha par un rétablissement et disparut. Un instant après, il réapparaissait avec Quick dans les bras. Polo, monté sur la chaise, reçut le chien et le déposa sans dommage sur le sol. « Maintenant, reprit Christophe, cela devient une petite fête de famille. »« Tu sais, expliqua Polo, Mouche n'est pas arrêtée, elle est libre. »« Alors qu'est-ce qu'elle fait ici ? Elle attend qu'on vienne nous ouvrir. » Oui, mais on lui a apporté son déjeuner puisqu'il reste du gâteau. Ça veut peut-être dire que vous allez attendre longtemps, continua Christophe. Le brigadier est allé téléphoner, m'a dit Madame Cortisol. En ce cas, il n'est pas encore de retour. Nous, au camp, quand nous voulons téléphoner, il faut quelquefois 2 ou 3 heures. J'espère bien que non, s'inquiéta Mouche. J'ai besoin de tout mon temps. Alors, décréta Polo, puisqu'on t'a dit que tu étais libre, c'est que tu l'es. Allez, on t'emmène. Avant que Mouche ait eu le temps de protester, ce dont d'ailleurs elle n'avait guère envie, Christophe montait sur la chaise, la prenait dans ses bras et lui faisait atteindre le rebord de la fenêtre, puis la poussait au dehors. Elle attrapa facilement l'extrémité de l'échelle et descendit. Polo allait la suivre quand il aperçut les vieux képis sur l'étagère. Dis donc, Christophe, si on mettait un de ces képis sur la tête de Quick, il ne se laissera jamais faire. Passe-moi un et tu verras. Le grand garçon, qui était toujours sur la chaise, prit un des képis sur lequel il souffla en provoquant un petit nuage de poussière. Puis, il redescendit et le plaça sur la tête du caniche, lequel, habitué à ce genre de farce, se mit incontinent à faire le beau. Hey, fit Polo, si on le laissait le chien ici, il saluera le gendarme avec le képi et remplacera Mouche officiellement. Oui, Quick ne court aucun danger et ce sera tordant. Tous deux s'éclipsèrent par la fenêtre sans emmener le brave chien qui s'intéressait déjà plus au relief du repas qu'aux deux jeunes garçons. Ils rejoignirent Mouche, remirent l'échelle à sa place et le trio se sauva par derrière les maisons. « Mon pauvre Quick !» s'indigna Mouche. « C'est cruel de l'avoir abandonné ainsi. » « On nous aurait remarqué trop facilement s'il avait été avec nous et qu'il se mit à aboyer. »« Et puis, » ajouta Polo, « ce n'est pas le père Cortisol qui lui fera du mal. Nous pouvons être tranquilles. » Où va-t-on maintenant ? Allons nous asseoir dans la forêt, conseilla Mouche. J'ai un tas de choses à vous raconter. J'aurai aussi besoin de vous, et pour de bon. Tant mieux, ça nous distraira, répondit Christophe. Les trois amis contournèrent le village par l'extérieur pour grimper sur la colline. Et quand, une demi-heure plus tard, le brigadier ouvrit la porte de la réserve pour libérer Mouche, les bras lui tombèrent de stupéfaction. La fillette n'était plus là. Et assis sur la chaise, Quick faisait le bond en deux en tenant fort sérieusement dans sa bouche la visière du fameux képi d'uniforme. « C'est trop fort » gronda-t-il. « Nous étions tous devant la porte et personne n'a vu entrer le chien ni sortir la gosse. On dirait que le diable s'en mêle, pourvu que ça ne nous porte pas malheur. » Parmi les commères auxquels il raconta cet incident, il y en eut qui se mirent à trembler en se demandant si ce n'était pas le diable lui-même qui avait fait voler les reliques du musée. Thank you.